Avoir château dans le Lot. Visite découverte des châteaux de notre département. Avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'émission Avoir château dans le Lot, eh bien au château de Sennevières. Et là, nous sommes dans la chapelle dont je parlais à la fin de la dernière émission. Alors, chapelle tout en pierre. Patrick, oui. Expliquez-nous.
Alors, chapelle, donc c'est la partie la plus ancienne du château, parce qu'elle a toujours été construite. On voit quelques marques de passage, d'ouverture, qui ont été bouchées ensuite, parce que chacun à gérer la maison en fonction de ses besoins. Et on peut dire que dans le plus long temps, cette pièce était chapelle. Elle s'est arrêtée au moment où les Gourdons sont devenus protestants, on en reparlera. Et de cette époque, à peu près 1615, 1620, jusqu'à la Révolution, c'était ici une salle de jugement. Parce que, comme notre justice en France, le palais de justice, c'est pas un bistrot moche, loin des garages, il y a un petit temple, vous voyez, il faut un peu de cérémonie. Donc on peut dire que les lettres du pain qui suivaient rendaient la justice ici pour avoir un lieu un peu homogène et correct pour rendre cette justice.
Alors nous apercevons un autel, un chœur. Cet autel a une histoire.
Eh ben oui, alors cette histoire, elle est discutée, hein, comme toute l'histoire, parce qu'il n'y a pas que des vérités vraies. Le plateau qui est là aurait été dérobé, ça c'est pratiquement sûr, par Antoine de Gourdon lorsque, à la demande d'Henri de Navarre, futur Henri IV, il va se retrouver à l'attaque de la ville de Cahors, qui a fait quand même beaucoup, beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, on a retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, une petite lettre du père Henri IV qui engueulait le seigneur de Gourdon au motif qu'on lui demandait de prendre la ville, mais on lui demandait pas toutes les déprédations et morts qui ont eu lieu par la suite, par quelques soldats qui avaient sans doute inaugurer des barriques de bon vin de Cahors. Donc voilà, le pillage de la cathédrale a été fait. On voit encore des traces d'ailleurs de cassures sur l'aile droite, me semble-t-il, de la cathédrale. Je pense qu'il doit y avoir un petit coup de marteau du seigneur de Gourdon là-dedans, et en tout cas de ses troupes.
Hein. Oui, un petit peu partout dans la cathédrale, en particulier dans la chapelle profonde. Oui. Où le couronnement de la Vierge a été complètement martelé. Voilà. Je pense que les Huguenots ont fait plus de mal que la Révolution.
Sûrement. Voilà. Et long. Ça a duré longtemps. Alors qu'il s'agissait de prendre la ville, je crois qu'ils se sont rendus assez vite. Oui. Et après, ils sont restés, les protestants de Gourdon sont restés plusieurs jours et ont tout cassé et tué.
Et vous disiez qu'Henri IV était un petit peu remonté contre ses troupes, mais c'est vrai qu'une fois devenu roi, il a dédommagé la ville de Cahors et pour 6000 livres tournois de l'époque et dont 3000 pour la cathédrale. Ce qui n'était pas rien, c'était la moitié de la somme. Voilà.
Alors, cet hôtel, y a-t-il une relation, je pose une question peut-être bête, quelle est la relation avec la Sainte Coiffe?
Alors, ce que j'en sais, et puis ça aurait fait l'objet de discussions, il y a eu au moment de l'anniversaire là, des 900 ans de la création de la cathédrale, pas mal de réunions, de discussions là-dessus. La version que nous avons, nous, c'était d'avoir le pillage de la cathédrale depuis Cahors. Henri IV aurait fait remonter deux bateaux qui contenaient l'une cet hôtel et l'autre le petit meuble dont on a parlé qui était au grand salon dans lequel on aurait eu il aurait servi de reliquaire pour la Sainte Coiffe. au moment de, on raconte que l'un des bateaux s'est écrasé à Galicie, et à l'occasion des 900 ans, il y a eu des expéditions, la marine nationale avait prêté des sonars et des outils pour fouiller, parce qu'il y a des gouffres sous la rivière à cet endroit-là, mm-hmm. et on n'a rien trouvé de particulier. Donc la légende, l'histoire raconte que on a ramené ici l'un des deux autels et le deuxième, donc sans doute coupé au milieu du Lot. Et cet autel aurait été débarqué à la hauteur du village de l'église de Sainte-Vière sur le Lot, déposé dans les champs. Et c'est mon arrière-grand-père qui, connaissant l'histoire, l'a fait remonter ici et tirer pour le mettre dans la chapelle. Mm-hmm. Donc, c'était une pierre abandonnée, d'après ce
pardon, Marie-Madeleine,
oui. Alors sur ce morceau de pierre d'autel, est-ce qu'il y a cette fameuse inscription?
Eh bien, elle est pas dessus directement. Voilà. Mais il y en avait deux.
Oui.
Et on pense que c'est sur l'autre que se trouvait cette inscription.
Voilà.
Parce que là, ça a été regardé partout. Il n'y a pas de trace, elle n'est pas abîmée.
D'accord. Parce que dans l'inscription dont nous parlons, est tirée d'un acte notarié. Et qui, en 1684, et voilà l'inscription, autel dédicacé à la mémoire du Saint-Suaire du Christ par le pape Calixte II en l'an 1119, le sixième des calendes d'août. Donc là, c'est bien la preuve qu'il y avait un autel concernant le Saint-Suaire, c'est-à-dire la Sainte Coiffe.
Tout à fait.
Voilà.
Et c'est la Tour du Pin qui a voulu avoir cette attestation notariée parce qu'on lui reprochait encore d'avoir piqué l'autel.
Oui, la Tour du Pin qui était protestant.
C'était protestant,
voilà.
Aussi.
Oui, donc il voulait se justifier.
Exactement.
Par ce témoignage.
Mm-hmm. Au-dessus de cet autel, il y a une vierge en pierre, une vierge couronnée, si je vois bien. Elle est datée ou
spécifique? Elle est tout à fait récente parce que c'est ma grand-mère qui a acheté ça. Il y avait des sculpteurs à Saint-Cyr-la-Popie. Je m'en souviens, c'était dans les années 60-65 et à l'époque, Saint-Cyr-la-Popie n'était pas le village touristique qu'il est aujourd'hui. Mm-hmm. Donc il y avait déjà quelques visites, mais pas organisées. Il y avait peut-être un café, pas plus. Mm-hmm. Et il y avait deux ou trois sculpteurs qui étaient là. Mm-hmm. Et ma grand-mère l'avait acheté. Ça correspond au moment, Patricia peut en parler, où on a avec ma mère, surtout elle, décidé, si vous voulez, de remettre cette ancienne chapelle, on va dire, en service, avec des cérémonies qui passaient, des amis prêtres, de temps en temps, le prêtre des paroisses qui venait là. Et ça s'est fait à ce moment-là. On va dire un peu la réhabilitation en chapelle.
Oui. Alors ça m'amène à vous demander, monsieur de Broquilange, les protestants se sont convertis donc au début du XVIIe siècle, avec Antoine de Gourdon. Et ensuite, quand la famille est-elle redevenue catholique?
Eh bien, les Latour du Pin qui suivent, si vous voulez, quand Antoine de Gourdon décède en 1615, sa veuve donc récupère dans son patrimoine le château, et c'est elle qui va se remarier avec un Latour du Pin, qui était aussi une famille de protestants, originaire de Latour du Pin en Isère. C'est une famille qui avait 7-8 châteaux. Et le dernier représentant des Latour du Pin, c'est Jean Frédéric, qui a vendu le château à mon ancêtre Louis Nourissard. C'est comme ça qu'on est propriétaire.
Au moment de la Révolution.
Et voilà. Et l'année d'après, il a vendu en 93. Et en novembre 1794, il a été guillotiné sur la place publique.
Voilà quelques petites précisions importantes.
Donc c'est à partir de la Révolution, de la Terreur, en fait.
Exactement.
La famille.
Voilà. Est revenu, activité protestante pendant un moment. Après, on va dire que c'était catholique, mais neutre et sans grande passion pour cette chapelle. Et vraiment, c'est ma grand-mère et surtout maman qui ont décidé de remettre tout ça. Et quand Patricia m'a fait le plaisir de venir visiter, elle m'avait trouvé sur mon échelle dans le grand salon, on l'a déjà dit, et on était aussi en train, avec la même équipe de cousins qui étaient là, de refaire tout ce dallage. Mm-hmm. Et donc le ciment était encore frais.
Alors nous apercevons là sur la droite une plaque en oui. pierre où il y a une date, 1809.
1809, alors ça c'est avec les lettres LN, c'est Louis Nourissard. Voilà. C'est lui donc qui a acheté le château et qui est mort ici en 1809. Alors il était enterré à côté de l'église et quand on a transféré le cimetière, comme il n'y a plus de représentants Nourissard, on a demandé l'autorisation du prêtre et on a remonté la pierre tombale ici. Mmh.
Au niveau de cette chapelle, il y a donc le côté catholique, mais lorsque nous arrivons au château de Sennevières, nous passons le porche d'entrée et nous apercevons et nous voyons sur la gauche un temple protestant.
Exactement. C'est sur ce bâtiment. Et j'ai le testament d'Antoine de Gourdon. Avant sa mort, il devait être malade parce que ça a duré quelque temps. Il a demandé donc à sa femme de poursuivre les travaux de création du temple. Mmh. Donc c'est lui qui l'a lancé, qui l'a financé, et il n'était pas terminé à la pratique religieuse. Mmh. Donc je dis souvent, j'imagine la tête de l'évêque, si vous voulez, qui se balade à un petit cheval, et tout d'un coup, il va monter un temple qui est quand même assez grand. Mm-hmm. Et c'est pas le style des protestants de faire beaucoup d'esbrouf. C'est plutôt religion un peu discrète. Et donc voilà, ça a été la conversion, la suite des rencontres avec Jeanne d'Albret. Et puis le fait qu'ici, dans la bibliothèque, eh ben j'ai deux ou trois bibles qui ont servi de support à la réflexion et à la pratique des religions prétendument réformées, comme on disait. C'était le RPR de l'époque. Hein. La religion prétendument réformée.
Très bien. Et donc nous avons cette magnifique chapelle, mais au plafond Marie-Madeleine, qu'est-ce que nous apercevons ?
Oui, nous avons une travée avec une croisée. Qui architecturalement soutient le plafond de cette chapelle. Mm-hmm. Avec ce petit cœur au fond qui est soutenu par cet arc qui ouvre sur ce cœur, qui est tout à fait réduit, mais qui est quand même un cœur, hein, avec une ouverture, une ogive sur la gauche, voilà, qui donne sur l'extérieur.
Mmh. Et Patrick de Braquilange et Patricia, y a-t-il des messes ici en dehors des messes familiales, avec la famille tout au moins ?
Non, on a de temps en temps, quand il y a par exemple des groupes de scouts qui passent ou des groupes de paroisse avec un prêtre, ils savent que ça existe, donc ils viennent. J'ai quelques amis qui sont prêtres, dont un dominicain qui est à Toulouse, qui de temps en temps vient ici parce que il aime bien la maison, et voilà, c'est des événements, on va dire, tout à fait périodiques. Le plus fréquent, c'est les aumôniers qui accompagnent les camps scouts.
Alors, tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, Patrick, je me permets de vous appeler Patrick, vous nous avez remis, de Marie de Saint-Exupéry, la mère d'Antoine de Saint-Exupéry, une prière. Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots avant que nous la lisions ?
Oui, alors c'est un texte. D'abord, la maison de Saint-Exupéry. Mon arrière-grand-mère est une Saint-Exupéry. Et donc, ils n'ont pas été propriétaires ici, mais c'est les filles successives qui se sont succédées ici. Et donc, on a dans la famille, mon père était très très friand d'Antoine, et dans toutes nos familles, en bibliothèque, on a toute la collection de ce qui a pu être dit et écrit. Et un jour, en cherchant je ne sais plus où, j'ai trouvé cette petite prière dont qu'on va vous réciter, qui a été écrite par Marie de Saint-Exupéry, qui était la mère d'Antoine. Mm-hmm. Et vous allez voir comment cette prière et d'actualité dans le monde un peu bizarre qui nous entoure. Voilà. J'ai pas la date, ça doit être dans les années 50.
Voilà, c'est un extrait de J'écoute chanter mon arbre chez Gallimard, oui, oui. 1971. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse commencer, peut-être Patrick.
Alors, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous prie pour les vieux, ceux qui sont sans foyer, ceux qui n'ont plus de place et qui n'ont plus de feu.
Pour les petits-enfants, je vous salue Marie. Pour les petits-enfants, si la mère est partie, ils pleurent dans la nuit. Quand la nuit est trop noire, ils n'ont plus de baisers, plus de belles histoires, si la mère est partie.
Vous qui fûtes bénie entre toutes les femmes, je vous prie pour les femmes qui prostituent l'amour. Je vous prie pour les jeunes qui, se donnant sans âme, profanent aussi l'amour.
Pour toute la jeunesse, je vous salue, Marie. La jeunesse à présent qui ne sait plus qu'on prie, qui ne sait plus qu'on aime, qui ne sait plus qu'on rit, et qui trouve la drogue en cherchant un abri.
Je vous salue, Marie, pour tous les cœurs blasés. Je vous salue, Marie, pour tous les cœurs brisés. Je vous salue, Marie, pour tous les cœurs comblés.
Voilà qui termine, non pas l'émission, mais cet instant dans cette magnifique chapelle. Nous allons partir vers l'extérieur pour continuer la visite.
Absolument.
Mais nous avons fait tout l'intérieur, maintenant nous allons à l'extérieur.
Je ne veux pas, on va y aller.
Mais avant de sortir de la chapelle, je crois que Patricia et Patrick de Braquilange veulent dire un mot de souvenir, on va dire.
Oui, ce sont des souvenirs récents, et ils ont trait au décès récent de mon père cette année, et de ma mère l'année dernière. Et alors on a pu, on avait fait le choix, puisque toute la famille a pu se regrouper là, on était entre quelques vaccins et quelques agendas un peu chargés, mais on a pu tous venir à peu près là, et on avait beaucoup hésité, les parents, à faire quelque chose pour tous. Et puis on avait décidé que il y avait peut-être une petite Sainte Vierge là qui pourrait nous aider, donc on a laissé les cercueils ouverts pendant 24 ou 48 heures, je me souviens plus très bien, et ça a été l'occasion de voir tous et chacun venir seul à plusieurs, chanter, pleurer, toucher, c'était vraiment très très émotionnant, et on a eu quelques phrases importantes, Patricia.
Oui, l'une de nos petites filles, parce qu'on était quand même très tristes de les voir partir comme ça, et elle nous a dit, quand mon beau-père est mort, il ne faut pas être triste, c'est pas triste, il va retrouver son amoureuse. Donc c'est quelque chose de très joyeux, au contraire.
Elle a quel âge ?
5 ans.
Ah, c'est magnifique. Vous vouliez dire quelque chose à propos de votre belle-mère ?
Oui, je voulais aussi remercier beaucoup ma belle-mère, mon beau-père aussi, mais beaucoup ma belle-mère pour cette chapelle, parce que ça a toujours été le lieu un petit peu aimanté. Elle nous ramenait toujours là quand il y avait des moments un peu plus difficiles. Et je vois au niveau de mes enfants, surtout mes enfants, les neveux. Donc la chapelle, c'est quelque chose de très important dans le château.
C'est un lieu de rassemblement.
C'est un lieu de rassemblement, d'amour. Et voilà, c'est l'âme du château.
Et on a eu des fiançailles, des mariages.
Des conversions.
On a eu des tas de choses assez proches de chez nous. Et quelquefois, de personnes complètement à l'écart des familles. Mais il s'est passé des petites choses ici. Donc,
on y est très attaché.
Toujours très attaché, oui.
Merci pour ce magnifique partage. Et donc, nous allons sortir de cette chapelle. Alors voilà, nous sommes sur la terrasse qui donne sur le Lot, et là il y a un paysage magnifique.
Oui, alors vous voyez de cette terrasse qui surplombe le Lot d'à peu près 60 mètres, aujourd'hui un peu retiré des pieds du château parce qu'on a construit le chemin de fer en 1890, donc il y a un talus et une route qui ont empiété sur la rivière. On pouvait quasiment pêcher depuis le château. Et donc, sur cette terrasse magnifique, on voit le village de Calvignac avec l'église. Et sur la droite, on voit une petite tour noire qui dépasse les ruines de l'ancien château. Et de ce château là-bas, évidemment, il me voit. Et il voit surtout Salvagnac à côté de Cajar. Ainsi de suite. Et moi, de ma terrasse, je vois Calvignac et je vois Saint-Cyr-la-Poupie où il y avait le château de Madame de Cardaillac. Là,
d'accord.
Donc, vous voyez, c'est un lien physique. Et à chaque fois, les châteaux sont construits sur des barrières de calcaire, hein, la falaise. Là, Calvignac, vous voyez toutes les maisons du village.
Oui.
Il est coupé en tranches nettes.
C'est ce que vous expliquiez là, lors de la première émission, effectivement. Donc, un paysage paisible, on va dire.
Voilà, c'est la grande plaine, hein, du Lot classique, ça sinue de partout. Un petit bruit de fond qui est la retenue d'eau qui est là, avec cette création qui a été faite à l'époque de Colbert. On commençait à mettre des cailloux, non pas pour freiner, on ne savait pas faire des vrais barrages. Vinci l'avait fait, mais avec du bois, dans des rivières plus douces. Là, quand ça tape fort en orage sur la Truyère, qui m'amène toutes les eaux du Cantal, et puis l'Aveyron, le Dourdou, tout ça, ça fait quand même du bruit et des dégâts. Et cette année, en janvier, toute la plaine était recouverte, jusqu'à la route là-bas, on avait 4 mètres de flotte là-dedans. Hein.
Ouh là là, oui, effectivement. Partout, donc je disais un paysage paisible, serein et à la fois protégé.
Oui, absolument.
C'est ce qu'on ressent quand nous sommes sur cette terrasse.
Et alors, la vie économique se faisait dans la plaine pour les cultures qui ont besoin d'eau. Et évidemment, tout le pacage, l'élevage, c'était les brebis sur les fermes du Causse. La frontière physique, la rivière n'était pas une frontière physique, pardon. Mais de l'autre côté, à l'époque des Gourdons, le domaine allait jusqu'à la rivière de l'Aveyron. Hein. Donc à 30 km en ligne droite, 20 km en ligne droite.
Et là, nous nous retournons et nous voyons le château, bien sûr, avec un passage.
Voilà.
Et un passage avec des colonnes.
Alors, c'est une petite galerie à l'italienne, on appelle ça des loggia, en italien de la Renaissance. Et ça, c'est typique des souhaits de Gourdon, qui a donc fait plusieurs guerres d'Italie avec Gallio de Genoillac et François Ier. Ben, tous ces garçons, quand ils vont là-bas, ils ont une envie, c'est d'essayer de copier. Et donc, pour copier, ben, il faut débaucher quelques artistes italiens qui vont se faire une joie de venir, parce que c'est assez tard par rapport au début de la Renaissance italienne. Hein, quand nous, on arrive, 1515, 1525, vous voyez, on a fait plusieurs années là-bas, on a vu de belles réalisations, mais une fois que les chantiers sont finis, vous êtes artiste peintre, vous avez fait un bout de la chapelle Sixtine ou la cathédrale de Florence et je ne sais quoi. Et ben voilà, le boulot il est fait, mais le pape il va pas construire 3 basiliques, vous voyez. Et le duc de Mantoue, ben il a un grand palais, mais il va pas en faire 3 non plus. Donc il y a une échappatoire pour ces artistes italiens, c'est l'Europe, et c'est comme ça que toute notre Europe classique, vous allez en Espagne, vous allez en Allemagne, vous allez en Belgique, en Angleterre, en Autriche, partout, vous avez ce même sentiment.
Alors là, nous sommes à l'arrière du château, donc il donne sur le Lot. Nous allons nous projeter vers la cour, la cour d'arrivée. Donc nous y allons de ce pas. Voilà, donc nous sommes dans la cour d'entrée du château. Et nous sommes devant le portail d'entrée. Alors, il y a un écusson au-dessus, un blason. Qu'est-ce qu'il représente ? Alors, Patrick ?
Le blason est celui des Gourdons, qui étaient vraiment les restaurateurs et les développeurs de Sennevières, passant du Moyen-Âge à cette Renaissance. Et le château va changer de style, et en même temps, la vie aussi, on est moins en guerre perpétuelle. On va passer du temps à lire des bouquins, à réfléchir, à recevoir les gens, et c'est le changement de style fait par Gourdon.
Alors, Madame de Braquilange, juste au-dessus de la porte, il y a quelques détails intéressants. Est-ce que vous pourriez nous les citer ?
Alors, avant de rentrer dans le château, on a des signes alchimiques.
Oui.
Hein, donc, il faut être vraiment initié pour les voir. Alors, vous avez sur le côté les cornes de bélier, les cerfs de lait, à droite et à gauche, avec les feuilles d'acanthe. Et surtout, vous avez la petite frise avec des formes géométriques, le rectangle, le losange, l'ovale. Alors, on appelle ça l'échelle de Jacob ou l'échelle du philosophe.
D'accord.
Et pour finir, vous avez sous la voûte, en pierre, le losange.
Ah oui, effectivement.
Donc, on peut passer à côté. On est passé pendant des années. On n'a jamais rien vu.
D'accord.
Et ce sont des visiteurs qui nous ont fait remarquer tout ça.
D'accord.
Donc, avant même de rentrer dans le château, il y a eu quelque chose.
Il y a des signes.
Voilà, c'est une maison philosophale à cause de tous ces signes.
D'accord.
Et vous avez en dessous, en rentrant, sur le plafond, pareil, l'ovale, le rond et le losange. Ça, c'est typique de l'art de sens. Voilà. Et ça rapporte aussi avec la chimie.
D'accord.
D'accord. Alors, nous allons nous reculer un petit peu plus pour que nous puissions voir également l'époque du château ou les différentes époques. Donc, nous sommes juste en face de ce temple dont nous parlions tout à l'heure. Et donc, là, voilà, nous sommes dans la cour complètement et on aperçoit ce beau bâti du château. Quelle est là ou les périodes ?
Ben là, vous avez la tour dite de Gourdon,
à gauche,
avec la partie gauche, au rez-de-chaussée, donc à la fois deux étages en dessous, les oubliettes où on était, et puis la chapelle, c'est la partie la plus ancienne.
Mm-hmm.
Clairement, on aperçoit un peu sur la droite les anciennes ouvertures, plutôt de style roman, très simple, étroit, et ça c'est la période du château fort, parce que on voulait évidemment bénéficier de la pique. Je rappelle qu'à l'origine, il n'y a pas de château, il y a une grotte fortifiée dans laquelle Pépin le Bref va capturer le duc d'Aquitaine, Gueffier. Donc, un lieu militaire, oui. Dès qu'on sort de la grotte, parce que c'est quand même pas très plaisant à vivre, on va construire un château fort, et ensuite, à la Renaissance, on va utiliser tout ça. Il y a des datations de pierres qui ont été faites par les monuments historiques, et ça correspond bien à ça.
Mm-hmm. Alors, lorsque nous continuons...
Voilà, après on continue, on a tous les bâtiments, le grand salon qui se trouve derrière, le petit cabinet d'alchimie sur la gauche de la porte principale d'entrée, mm-hmm. en lien avec les symboles alchimiques sculptés
oui, dont vient de parler Patricia.
Et puis là-bas, les chambres qui continuent, et tous ces bâtiments. Et ici, tout un bloc, Moyen-Âge aussi,
ah oui,
avec donjons, tout rond, tout bête. On a encore le trou pour laisser passer les flèches. Enfin, vous voyez, c'était
un
joyeux mélange.
Nous passons le portail d'entrée du château, enfin de cette cour. On aperçoit une petite tourelle, et au-dessus également de la porte, quelque chose d'assez particulier.
Alors, la partie rempart et portail...
Oui.
Tout ça, c'est 1890. Ça a été refait par mon arrière-grand-père, le Sage.
D'accord.
C'est lui qui a fait ça. Et comme il était abonné à la revue d'illustration, on voyait du Viollet-le-Duc partout. Et donc, il s'est inspiré de Viollet-le-Duc. Je dis souvent à mes visiteurs, en rappelant ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, si demain ça se détruit parce qu'il y a un tremblement de terre, comment est-ce que je le reconstruis? Est-ce que je remets ce faux Viollet-le-Duc? Et ce sera faux, 1890, ou alors je fais des remparts Renaissance parce qu'il y en avait, eh bien ce sera faux, au Moyen-Âge ce sera faux. Et donc j'ai une super idée depuis 2 ans, c'est que je mettrai un grand plastique à cause du Covid. Comme ça nous serons tous protégés.
Absolument parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus pendant ces 5 émissions au château de Sennevières. Avec un accueil extraordinairement chaleureux, serein et remarquable. Merci beaucoup Patricia et Patrick.
Merci mille fois, on a été ravis de vous recevoir avec joie.
Patrick, un dernier
merci.
Mot
Non, un tout petit mot sur le bâtiment qui est là
temple.
À l'entrée, qui est le temple des protestants. C'est le lancement a été fait par la construction a été fait par Antoine de Gourdon et en 1616 Antoine de Gourdon, quelques mois avant son décès, écrit son testament, et dans le testament, il demande à sa chère et tendre épouse de poursuivre la construction du temple. Ça veut dire qu'il avait commencé sans doute dans les années 1600. Donc, vous voyez, après l'attaque d'Henri IV, 1580, ça lui laisse le temps de réfléchir et peut-être de ramasser quelques sous pour construire son temple.
Voilà. Voilà, merci
Patrick. D'être passé, on est ravis d'accueillir tous nos visiteurs d'Occitanie et au-delà si ça vous chante. Merci.
Voilà, merci Marie-Madeleine.
Eh bien, au revoir à tout le monde.
Voilà, et n'hésitez pas à venir visiter ce magnifique château en saison, le château de Sennevières. Si vous allez à Saint-Cyr-la-Poupie, eh bien, n'hésitez pas à aller jusqu'au château de Sennevières. Au revoir, chers auditeurs, et à très très bientôt. Merci déjà
merci
de nous
beaucoup.
Avoir écoutés, et merci Monsieur et Madame de Braquilange pour votre accueil, et à la semaine prochaine pour d'autres aventures dans l'émission À voir château dans le Lot.
Merci.
Au revoir, revoir à tous.
Au revoir.
C'était À voir château dans le Lot.
Visite découverte des châteaux de notre département avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.